12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans un instant, votre grande édition et juste après, on fait bouger la France. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée aux innovations françaises que vous allez découvrir, notamment à Vivatech et ici sur Europe 1. Vous allez voir, vous allez être bluffés.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
80 ou 90, le Premier ministre renvoie la balle dans le camp des présidents de département. Édouard Philippe leur cède la décision après des mois de bras de fer. Alors faut-il y voir un renoncement de la part du Premier ministre? Pas sûr, nous dira notre éditorialiste Mickaël Darmon. On appellera aussi François Sauvadet, président de la Côte d'Or. Le taux de chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans au quatrième trimestre 2018. Le nombre de demandeurs d'emploi encore baissé, recul continu, notamment chez les jeunes. Dossier dans ce journal. L'anesthésiste de Besançon à nouveau chez le juge. Frédéric Péchier est soupçonné de nouveaux empoisonnements, déjà condamné en 2007. Cette fois, ce sont entre 30 et 40 nouveaux cas qui lui sont reprochés. Pourquoi n'arrive-t-on pas à une décision commune et claire sur le glyphosate? Début d'explication dans un rapport. Il est publié cet après-midi. Il met en lumière la complexité notamment des processus de décision. À la une aussi, Parcoursup et les élèves confrontés à leurs premières évaluations. Jeff Koons aussi qui affole les enchères. Le lapin du plasticien américain s'est vendu, s'il vous plaît, un peu plus de 91 millions de dollars. C'est un record. La météo, Valérie Darmon, le soleil continue de briller, mais de moins en moins.
Eh oui, parce qu'à partir de ce soir, poussé par un vent d'ouest, une perturbation remontant de la péninsule ibérique aborde le Pays Basque et les Pyrénées, commençant à les arroser. Les maximales affichent tout de même 17 à 20 sur la moitié nord, 19 à 25 au sud. C'est la journée la plus douce de cette semaine.
Merci Valérie, météo complète. Ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Ce n'est ni un coup de frein, ni une marche arrière, mais quand même, Édouard Philippe est d'accord pour assouplir la mesure des 80 km/h. Sa mesure, celle qui est en vigueur depuis juillet dernier sur la plupart des axes secondaires. Le Premier ministre l'a précisé ce matin. Il faut dire que la mise en place du dispositif, souvenez-vous, avait provoqué la colère des automobilistes. Chanel Petit, vous êtes pour Europe 1 dans les Yvelines, juste à côté de la départementale 336. Alors dites-moi, que disent les conducteurs que vous avez pu rencontrer?
Eh bien, ils sont contents ce midi, les automobilistes. Ils n'attendent que ça, de pouvoir rouler en toute légalité à 90 km/h sur cette départementale toute droite qui est juste à côté de moi. Mehdi l'emprunte tous les jours pendant une bonne demi-heure, matin et soir, pour se rendre au travail. Il trouve injuste la réduction de vitesse sur cette route, selon lui, sans danger.
Chaque région est spécifique, chaque route est spécifique. On ne peut pas prendre une décision nationale décidée depuis Paris pour être appliquée un peu partout sur le territoire national. Donc je pense que c'est une bonne idée de revenir dessus. D'ailleurs, s'ils reviennent dessus, c'est que ça prouve bien que ça ne fonctionnera pas et ça ne fonctionne pas d'ailleurs.
Alors même si l'annonce du Premier ministre dessine des sourires sur la plupart des visages, elle agace un peu Franck, qui roule plusieurs centaines de kilomètres chaque semaine.
Beaucoup de bruit pour rien, c'est une volte-face. C'est une façon de se débarrasser du sujet. Laisser la décision aux régions. Mais bon, après, il y en a un, il va être plus sensible à la conduite et autres qui va autoriser 90. Il y en a un, pour un peu que son neveu ou autre, il ait eu un accident de voiture, lui, il va descendre à 80. Ça risque d'être assez subjectif.
Les automobilistes sont maintenant dans l'attente et croisent les doigts pour que le conseil départemental des Yvelines et les autres leur permettent rapidement de rouler à nouveau à 90 km/h.
Merci Chanel Petit. Alors, coup de volant du chef du gouvernement ou pas? Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Est-ce qu'Édouard Philippe a mangé son chapeau sur cette question?
Il aurait mangé son chapeau si la mesure avait été entièrement annulée. Or, le fait que ce soit l'État ou les départements qui gèrent maintenant la mesure et qui vont la réguler ne change pas, pour en tout cas un certain nombre de routes, le principe de la limitation de vitesse sur la route secondaire. Donc il y a, je dirais, un transfert effectivement de compétences, de responsabilités, et donc on va voir maintenant peut-être de motifs de colère des populations qui vont être plus en colère contre l'État, mais qui seront maintenant en colère contre leur collectivité locale. Je dirais que c'est plutôt un joli coup. Certes, on a beaucoup critiqué cette mesure tombée d'en haut, et maintenant elle va maintenant monter du bas. Mais ce sera pour beaucoup de régions, effectivement, une régulation.
Alors dites-moi, ça va quand même être un peu compliqué, non, pour les départements de gérer d'une même voix, surtout le dossier.
D'abord, on a compris qu'il n'y aura pas une même voix, puisqu'on a même entendu déjà un interlocuteur à l'antenne à l'instant dire bah, il y a des routes qui sont à 90, d'autres qui seront à 80,
ouais,
parce
va
que les régions
quand même une
sont différentes.
Cohérence.
Un, il va falloir effectivement être cohérent. Deux, les responsabilités des régions maintenant vont devenir plus lourdes, parce qu'elles auront aussi charge d'âme, parce que ce sont des mesures qui devront être prises et qui engageront la sécurité sur les routes. Il y aura une question de savoir s'il y a une expertise suffisante, si les décisions seront prises et comment seront-elles acceptées. Puis on verra également comment les collectivités arriveront à imposer des décisions impopulaires. Jusqu'à présent, elles étaient un peu dans le bon rôle, elles critiquaient l'État, mais voilà maintenant que s'il y a un transfert de compétences, il faudra aussi qu'il y ait un transfert de responsabilité, d'expertise et de capacité à pouvoir faire passer une mesure.
Eh bien justement, on va voir ce qu'en disent ceux qui se sont battus pour faire disparaître cette mesure. Bonjour François Sauvadet.
Bonjour.
Vous êtes président du conseil départemental de Côte d'Or, président du groupe droite centre indépendant de l'Assemblée des départements de France. Comment vous accueillez cette décision ce matin d'Edouard Philippe? C'est une victoire?
Bon, c'est pas une victoire, c'est une décision de bon sens. Enfin, c'est incompréhensible que depuis Paris, on détermine que sur tout le réseau départemental, on est passé à 80 km/h avec des situations complètement invraisemblables. Regardez, entre Dijon et Beaune, 38 km, 42 changements de vitesse. 42 changements de vitesse. Vous aviez des portions qui étaient à deux voies à 90 km/h, puis vous repassez à 80 sur une voie. En face, c'était 80. C'est incompréhensible.
Donc vous allez tout unifier sur votre département ?
Ben, je ne vais pas tout unifier. Ah. Je vais faire ce que j'ai proposé au gouvernement depuis de longs mois, c'est-à-dire prendre les réseaux routiers qui sont sécurisés et sur lesquels la vitesse peut être garantie à 90 km/h sans prendre de risque pour les usagers. Et puis, nous allons le faire très rapidement dès que la loi aura été votée. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il faille une loi, puisque c'est une décision qu'avait prise le gouvernement sans qu'il y ait débat législatif sur cette question. Mais c'est du bon sens, vous savez.
Mais est-ce que ça signifie qu'Edouard Philippe n'en avait pas sur cette question du bon
attendez,
sens
quand on, écoutez, vous savez, vu de Paris, la voiture, c'est devenu l'ennemi public numéro un. Mais vu de la province, vu de Marigny-le-Caouet, quand on n'a pas sa voiture, on ne peut pas circuler, on ne peut pas aller dans les moindres services, on ne peut pas emmener ses enfants à l'école, on ne peut pas aller faire ses courses. La voiture, on en a besoin. Donc simplement, la sécurité routière, c'est notre priorité numéro un. Le Premier ministre a oublié que le réseau routier départemental, c'est la responsabilité des départements. Moi, je gère depuis 12 ans que je suis président, 5800 km de route. Notre réseau, on le connaît bien. C'est pas depuis Paris qu'on va nous dire s'il faut rouler à 80. Moi, des limitations de vitesse, il faut que vous le sachiez. J'en ai pris au moins 400 ou 500 au cours de l'année dernière.
Oui, mais alors du coup, vous héritez, là, François Sauvadet, d'une responsabilité dont vous ne vouliez pas, puisque c'est quelque chose qui a été décidé par l'État, ces fameux 80 km/h.
Attendez, la responsabilité, non seulement on la revendique, mais on l'assume. Vous croyez que sur les 5800 km de route départementale en Côte d'Or, vous croyez que je ne suis pas responsable du réseau routier? Chaque fois qu'il y a un accident, d'ailleurs, on a une commission qui se réunit, un accident mortel ou grave, pour regarder les conditions de l'accident, si c'est un comportement de l'usager. On est responsable de nos routes, on est responsable. Mais c'est pas d'aujourd'hui, on semble le redécouvrir. Moi, chaque fois qu'il y a un accident, vous ne croyez pas que les usagers qui sont victimes d'un accident, qu'ils ont eux-mêmes causé ou pas, ils viennent pas regarder s'il n'y avait pas les panneaux qu'il fallait, s'il n'y avait effectivement pas trop de gravillons. La responsabilité, on l'assume.
Donc,
on
décision.
Semble redécouvrir le monde.
Décision de bon sens, si j'ai tout bien compris. Bah, merci François Sauvadet d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Il est 12h37, la suite du journal sur Europe 1. Raphaël Duchemin.
Ça fait 10 ans qu'il n'a jamais été aussi bas le taux de chômage. Au premier trimestre, décidément, je veux absolument que ce soit l'année dernière. Au premier trimestre de cette année, a atteint 8,7%. Le recul sur les trois premiers mois de 0,1, ce qui peut paraître faible vu comme ça, mais ce qui est à noter, c'est que c'est continu. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour Raphaël.
Derrière ces chiffres, il y a des tendances de fond, notamment la baisse du nombre de demandeurs d'emploi chez les jeunes.
Oui, et surtout chez les jeunes femmes. Et là, c'est même assez impressionnant. Le chômage des moins de 24 ans recule de 4 points sur un an pour les jeunes femmes. Alors, côté raison, on peut avancer la réforme de l'apprentissage qui commencerait à donner quelques effets. Certains sur le terrain disent qu'ils ont du mal à trouver en ce moment des apprentis. Ce qui est aussi intéressant dans les chiffres qui ont été publiés ce matin par l'INSEE, c'est qu'il y a une très forte baisse des personnes qui ne sont pas considérées comme chômeurs, mais qui cherchent quand même un emploi. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, c'est souvent le signe d'une période économique qui est plutôt correcte. En tout tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si notre taux de chômage reste très élevé par rapport à notamment ce qui se passe du côté de chez nos voisins, eh bien, il y a quand même une amélioration sur le long terme. Je vais vous donner un chiffre. Le taux de chômage a reculé d'un demi-point depuis un an, depuis début 2018. Donc, même s'il y a une amélioration, on ne va pas se réjouir quand même trop vite. Hein. Le gouvernement va devoir aller plus vite pour espérer atteindre son objectif de 7% de chômeurs d'ici à la fin du quinquennat.
Alors, on va voir tout de suite si c'est possible. Bonjour, voyons. Stéphane Carcillo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Ce recul, effectivement, hein, c'est le signal très net que ça va manifestement continuer à baisser. Est-ce qu'on peut véritablement, comme le disait Emmanuel, se diriger vers les 7% de chômeurs demain ?
Écoutez, effectivement, c'est un signe très positif. C'est cohérent d'ailleurs avec les signes de création d'emplois qui ont été publiés il y a quelques jours et qui montre que les créations d'emplois restent très dynamiques malgré une croissance qui est ralentie. On est à un rythme de croissance pour cette année de 1,5%. C'est un rythme de croissance où normalement le chômage ne devrait pas tellement baisser et les créations d'emplois devraient être assez atones, en tous les cas assez modérées. Et on voit que finalement, grâce aux réformes passées qui ont enrichi la croissance en emploi, notamment en abaissant le coût du travail à proximité du SMIC, ce qui permet de créer beaucoup d'emplois dans les services, ben en fait, on arrive à créer plus d'emplois que prévu.
Est-ce qu'il y a aussi un effet démographique et un effet apprentissage ?
Alors, il peut y avoir effectivement un effet aussi sur l'apprentissage, même si la réforme importante est encore effectivement assez récente pour porter l'intégralité de ces fruits. Il peut y avoir aussi un effet sur les réformes des ordonnances qui ont sécurisé les fins de contrat en CDI. On voit que les embauches en CDI sont aussi plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Il y a des effets positifs. Mais cela étant, la perspective de baisser le chômage jusqu'à 7% concernant la France reste encore ambitieuse. Il faut savoir que la France fait partie des pays européens et des pays de l'OCDE où le chômage reste le plus élevé. Il y a guère en Europe que l'Italie, la Grèce et le Portugal qui ont des taux de chômage qui sont plus importants que nous. Et la raison, c'est qu'en fait, ces pays comme le nôtre ont des taux de chômage structurels qui sont importants. Ces taux de chômage structurels, c'est-à-dire ce sont des taux de chômage en dessous duquel il est très difficile de baisser parce que il y a des problèmes politiques, structurels qui font que le chômage ne baisse pas.
Donc il va falloir peut-être revoir les ambitions, les fameux 7%. Merci d'avoir été avec nous Stéphane Carcillo, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE.
Il est 12h41. Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, l'anesthésiste de Besançon se retrouve une nouvelle fois chez le juge. Il pourrait être mis en examen pour de nouveaux empoisonnements. A tout de suite.
Il est 12h43, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Combien a-t-il fait de victimes ? Le docteur Péchy est à nouveau chez le juge depuis ce matin. L'anesthésiste de Besançon, déjà condamné en 2007, fait l'objet de nouvelles poursuites, cette fois entre 30 et 40 nouveaux cas d'empoisonnement. Arthur Mbaché, vous êtes au palais de justice à Besançon pour Europe 1 et vous l'avez vu arriver juste après sa garde à vue.
Et le docteur Péchy a fait les 500 mètres entre le commissariat de Besançon et le palais de justice ici ce matin vers 9h, penché en avant à l'arrière d'une voiture de police banalisée, le visage masqué, la main sur le front, devant les yeux. Il conteste toujours et encore tout fait d'empoisonnement, de quelque nature que ce soit, nous a dit l'un de ses avocats, Randall Schwerdorfer.
Il est fatigué, hein, 48 heures, très fatigant, parce qu'il a participé et collaboré à tous les interrogatoires au mieux de ses possibilités.
Le déferrement de l'anesthésiste de Besançon dans ce deuxième volet de l'affaire, cette évolution qui donne un tour vertigineux au dossier, eh bien c'est également l'entrée en scène d'un autre avocat, du lourd si on peut dire, dans l'équipe de défense du médecin, le célèbre Jean-Yves Le Borgne, avocat entre autres de Carlos Ghosn.
J'indique que nous arrivons, que nous allons prendre connaissance du dossier et que tout commentaire préalable serait mal fondé, étant précisé quand même que cette curieuse réitération d'un phénomène après 2 ans nous amène à nous poser des questions.
Après le bureau du procureur, Frédéric Péchier doit passer devant le juge d'instruction avant un éventuel placement en détention. Conférence de presse du procureur cet après-midi à 17h30.
Merci Arthur Mbaché. L'ancien chef politique de l'ETA, l'organisation séparatiste basque dissoute l'année dernière, vient d'être arrêté en France. Josu Ternera était en cavale depuis plus de 16 ans. Il a été appréhendé à Sallanches, en Haute-Savoie. Le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné, c'était il y a 2 ans, en son absence, pour participation à une association de malfaiteurs terroristes.
Il est 12h45 sur Europe 1, la suite du journal Raphaël Duchemin.
Tout le monde l'a appelé le rapport choc sur le glyphosate. Il sort cet après-midi, mais si vous comptez enfin savoir si l'herbicide présente des risques pour la santé, vous risquez d'être déçu. Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Dans les 165 pages, seule une quinzaine porte véritablement sur cette question.
Et oui, on n'a pas de réponse parce que c'est tout simplement, ce n'est pas l'objet de ce rapport, de savoir s'il est dangereux ou pas pour la santé. Ce rapport évoque le glyphosate pour montrer à quel point il est difficile de trancher cette question justement et les difficultés auxquelles se heurtent les agences d'évaluation européennes dont c'est la mission. Et sur le glyphosate, ce que le rapport essaie d'expliquer, c'est pourquoi il y a des divergences de position entre le Centre international de recherche contre le cancer, une agence de l'OMS qui classe en 2015 l'herbicide comme cancérigène probable pour l'homme, alors que la plupart des agences européennes et même mondiales disent non. Il n'y a pas de lien entre glyphosate et cancer aujourd'hui, d'où la cacophonie qu'on connaît. Le rapport apporte 2 explications à ces divergences. D'abord, ces instances n'ont pas travaillé sur les mêmes sources, c'est-à-dire les mêmes études. Ensuite, ils n'en ont pas fait la même interprétation. Ce qui ne nous avance pas beaucoup, je vous l'accorde. Oui. Et le rapport conclut, l'EFSA semble avoir eu besoin de plus de preuves que le Centre de recherche contre le cancer pour établir un lien entre glyphosate et cancer.
Alors ce rapport, on vient de le comprendre avec vous, Eve, il met en lumière la manière dont en Europe on évalue aujourd'hui les substances à risque. Direction Bruxelles, où on rejoint la correspondante d'Europe 1, Isabelle Horry. Ce qui nous saute aux yeux, c'est que le processus d'évaluation est au centre de toutes les polémiques finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment fonctionnent véritablement ces agences ?
Bah, effectivement, il y en a deux sortes, comme on vient de l'entendre, et c'est une grande partie du problème. Deux types d'agences et deux méthodes d'évaluation. Le Centre sur le cancer de l'OMS regarde si un produit, que ce soit le glyphosate ou la viande rouge, est dangereux en soi. Il est très indépendant. Les chercheurs qui composent ces panels ne doivent pas avoir de lien avec l'industrie. Et lui, il regarde seulement les études scientifiques publiées. En face, il y a donc ce qu'on appelle les agences réglementaires, comme l'EFSA, l'agence européenne. Et elles, leur mission, c'est de dire si on peut mettre un produit sur le marché et à quelles conditions. Pour ça, c'est la grande différence. Elles se basent avant tout sur un dossier préparé par l'industriel. Alors, des études très poussées, mais payé par l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est elle qui doit payer pour commercialiser son produit. Ces études ne sont pas publiques. En plus, les experts européens sont recrutés de façon un peu moins stricte qu'à l'OMS. Alors aujourd'hui, le rapport donne des pistes pour rendre ces agences-là, les agences réglementaires comme l'EFSA ou comme l'ANSES en France, plus indépendantes, par exemple en leur donnant plus d'argent pour demander des études supplémentaires ou pour mieux contrôler celles des industriels. C'est fondamental pour qu'à l'avenir, les citoyens aient confiance quand une substance à risque, comme le glyphosate, est autorisée sur le marché.
Merci de vos explications et de vos éclaircissements, Isabelle Horry, en direct de Bruxelles pour Europe 1. Une action est en cours depuis ce matin au péage du Boulou dans les Pyrénées-Orientales, entre la France et l'Espagne, menée par la Confédération Paysanne. Les agriculteurs procèdent en ce moment même à un filtrage des camions qui transportent les fruits et légumes. Ils inspectent les cagettes. À quelques jours des élections européennes, ils réclament un prix minimum d'entrée sur le territoire français pour lutter contre ce qu'ils considèrent être de la concurrence déloyale.
Il est 12h48.
Europe 1.
Dans un instant sur Europe 1, Jeff Koons et son Rabbit qui vaut des millions. Mais aussi Parcoursup, le jour d'après, on part voir les élèves qui ont reçu leurs premières évaluations. A tout de suite.
Il est 12h50, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Accepter, refuser ou en attente, voilà ce qu'ont découvert hier soir les futurs bacheliers, puisque tous les élèves de terminale ont reçu, ça y est, les premières évaluations de Parcoursup, et ça nécessite forcément quelques explications. Jean-Luc Boujon, vous êtes au lycée Récamier de Lyon, où les élèves ont eu droit ce matin à un petit cours de pédagogie.
Oui, un accompagnement bien nécessaire pour les élèves parce que Parcoursup, c'est une nouveauté pour tout le monde. Donc, il faut expliquer et encore expliquer comme le fait le proviseur Bernard Rosier.
En BCPST, t'as demandé quoi ?
Floriel ? J'avais demandé Floriel, Marseille, Montpellier.
Donc, oui, il faut surveiller ça. Comme je vous l'ai dit, tous les matins à 8h, c'est remis à jour.
Le rôle est de les conseiller, de les rassurer dans un premier temps. Et puis après, de les éclairer des fois sur certaines situations qui peuvent être un peu complexes.
Et c'est le cas justement de Mehdi, élève élève de terminale S qui n'a aucun vœu accepté, mais plusieurs en attente.
J'ai demandé de la médecine et sciences de l'ingénieur. Les deux, je suis en attente. Ouais, ça fait un petit peu peur, c'est compliqué. Je pouvais pas savoir que j'aurais eu des vœux en attente et tout. J'attends et je verrai bien la réponse.
Alors avoir des vœux en attente, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'autant qu'avec Parcoursup, il y a une nouveauté très utile aux yeux d'Andreas.
En fonction de notre position dans la liste d'attente, on peut savoir si on est plutôt bien classé. Donc moi, par exemple, pour une prépa, je suis classé 30e. Mais comme l'année dernière, ils sont descendus à plus de 100 pour le dernier prix, du coup, ça devrait être bon.
Et Parcoursup, qu'est-ce que t'en penses ?
Au final, c'était pas non plus trop compliqué de s'y retrouver. Du coup, moi, je trouvais que ça allait.
Voilà, alors des séances collectives d'explication comme celle-ci, il y en a dans tous les lycées de France entre aujourd'hui et demain. Il y a aussi des possibilités d'entretien individuel avec les profs principaux. Avant de répondre, pour les élèves sous 5 jours, c'est impératif, oui ou non, aux vœux pour lesquels on a été accepté.
Merci Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. On part maintenant sur la croisette, mais loin des flashs et des paillettes. C'est en coulisses qu'on vous emmène ce midi, car avant de voir vos films au cinéma, à la télé ou sur vos écrans, il faut les financer, les acheter et les vendre. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
En direct de Cannes pour Europe 1, le marché du film, on peut le dire, hein, c'est un marché à part entière.
Oui, alors dans les débuts du festival, c'était un marché un peu improvisé. On vendait des films autour d'un verre, dans des bars d'hôtels. On montait des salles de projection de fortune en bois et en toile sur les terrasses des hôtels. Désormais, c'est plus ça du tout. Ce grand marché est organisé avec Netflix et les autres plateformes qui sont en train de changer les règles du jeu. Vous savez, les plateformes, donc, ce sont ces sites internet sur lesquels on peut visionner des films et des séries. Vous allez comprendre pourquoi elles changent le marché. Netflix et les autres n'achètent pas les films pour les sortir au cinéma, en salle, comme des vendeurs classiques, mais seulement pour garnir leur catalogue sur Internet. Alors on va au stand de Pyramide Films. Vous avez sûrement déjà vu ce nom au générique d'un film. Son patron, Eric Lagesse, qui vend des films dans le monde entier, a désormais Netflix en tête en permanence lors des transactions.
C'est-à-dire que moi, je mets un film sur le marché en tant que vendeur international, je peux avoir Netflix tout à coup qui me dit « Waouh, on adore le film, on veut l'acheter ». Mais si on l'achète pour le monde entier et le film ne sort nulle part. Moi, je l'ai déjà fait ça. Quand par exemple, j'ai senti que le film en question n'était pas un film qui allait se vendre à beaucoup de territoires, à des distributeurs où il allait sortir en salle. Donc évidemment, on ne refuse pas une offre intéressante de Netflix qui vous prend les droits monde, mais avec une simple exploitation sur une plateforme.
Alors, autre exemple que m'a donné un autre distributeur, un film d'auteur français dont les droits peuvent être vendus autour de 100 000 euros. Eh bien, Netflix, par exemple, là, en propose 500 000. Mais c'est de l'argent qui ne sera pas versé net. Il sera mensualisé, donc ça devient peut-être un peu moins intéressant. Et puis, les plateformes vont aussi imposer aux distributeurs des contraintes supplémentaires qui peuvent lui coûter cher. Par exemple, ajouter des sous-titres en 10 langues.
Ah oui, 10 langues, ça fait quand même pas mal. On vous laisse filer, Virginie Salmen, voir les différents films pour les projections. Le chiffre donne le vertige, 91 millions 100 000 dollars. Oui, vous avez bien entendu, voilà le prix hallucinant qu'un collectionneur américain a payé pour s'offrir le lapin de Jeff Koons. L'offre d'1,5 m est l'une des plus célèbres du plasticien. Vente record pour un artiste contemporain vivant qui dépasse les 90 300 000 déboursés pour une toile de David Hockney. Laetitia Baudouin, directrice du département d'art contemporain de Christie's Paris, nous explique pourquoi on atteint une somme aussi délirante.
Comment on explique ça? Déjà, il était resté dans la même collection depuis 1992, donc pas vu sur le marché depuis plus de 30 ans là maintenant. Donc ça, c'est formidable. L'image du lapin est un thème iconique chez Jeff Koons. Et ensuite, la couleur métal était formidable, parce que le collectionneur peut se refléter dedans. C'est une couleur qui plaît énormément aujourd'hui. Ça prouve qu'il y a encore et toujours beaucoup d'argent et beaucoup de collectionneurs qui recherchent des pièces rares, en fait. Ce lapin de couleur métal, c'est une icône dans l'œuvre de Jeff Koons. Donc, en fait, le marché est très fort pour des œuvres emblématiques.
Laetitia Baudouin avec Diane Chenouda pour ce lapin de Jeff Koons qui s'est vendu chez Christie's à New York, 91 millions 100 000 dollars.
Merci Raphaël Duchemin. Raphaël, on vous retrouve pour les grands titres de l'actualité
évidemment
de ce 16 mai. Et puis la France bouge à venir, il est 12h55.
Europe 1.
On reste ensemble et on va vous emmener dans les allées du salon Vivatech. Ici, dans le studio d'Europe 1, vous allez découvrir des innovations qui sont déjà en cours et que vous allez voir arriver dans vos vies dès demain. C'est la France qui bouge avec vous, 3921 et Twitter, on vous attend. Venez.